Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, nous allons faire connaissance avec Margot Robbie, actrice de 27 ans, qu'on découvrira mercredi à l'affiche du film Moi, Tonya. Elle y incarne la patineuse artistique Tonya Harding. Stéphane Boutsock l'a rencontrée. Gérard Depardieu, Benoît Magimel et Géraldine Peillas étaient dans les Bouches-du-Rhône hier pour présenter la saison 2 de la série Marseille, qui sera disponible sur la plateforme Netflix vendredi, à suivre le reportage de notre correspondant Étienne Baudu sur place. À la télé ce soir sur C8, Kim Jong-un va-t-il vraiment faire péter la planète? Un documentaire présenté par Victor Robert qu'on retrouvera au micro d'Isabelle Morini-Bosque. On prendra connaissance de nos express du jour avec Olivia Leray, qui reviendra notamment sur la disparition du merveilleux violoniste Didier Lockwood. Et puis nous irons avec Monique Younes dans la Sainte-Chapelle du château de Vincennes près de Paris, où la photographe Bettina Reims expose une série de portraits de femmes rencontrées dans les prisons françaises.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous allons faire connaissance ce matin avec une des stars de la nouvelle génération hollywoodienne. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Non, c'est pas vous, hein. Présentez-nous Margot Robbie, qui sera à l'affiche mercredi du film Moi, Tonya.
27 ans, visage d'ange, corps de mannequin, cette actrice, réalisatrice, productrice australienne fait partie désormais en effet de la courte liste de celles par qui passent tous les rôles majeurs. Une bombe anatomique qui explose en 2012 dans le Loup de Wall Street de Martin Scorsese en bimbo cocaïné aux côtés de Leonardo DiCaprio, avant de cartonner au box-office en 2016 dans Suicide Squad, en super-vilaine psychopathe ennemie de Batman. La voici cette année nommée aux Oscars pour sa performance dans le rôle de Tonya Harding. Souvenez-vous, la patineuse artistique détestée de l'Amérique, célèbre pour deux choses, un triple axel qu'elle a été la première à réaliser en compétition et son implication dans la violente agression de sa rivale Nancy Kerrigan. C'était juste avant les Jeux Olympiques de 1994, ce qui lui a valu d'être exclue à vie de toute compétition. Dans Moi, Tonya, Margot Robbie incarne cette athlète déchue, fille issue d'un milieu modeste, malmenée par sa mère, c'est peu de le dire, vous le verrez dans le film, battue par son mari, détestée par la Fédération américaine de patinage pour ses manières et ses tenues entre guillemets vulgaires. Une fille pas bien fine, mais dotée d'un caractère en acier trempé, l'anti-héroïne parfaite.
Je pense que ceux qui verront le film ne changeront pas forcément d'état d'esprit à son sujet et décidant si elle est coupable ou pas, mais ils pourront peut-être la comprendre mieux. Comme vous l'avez dit, on ne connaît pas tout des dessous de l'affaire. Donc, après avoir vu le film, certains ne se diront sans doute pas « Non pas, je l'aime bien cette Tonya », mais plutôt « Ok, j'en sais maintenant un peu plus sur le fond ». Moi, je n'avais aucune idée préconçue car je ne savais pas grand-chose sur elle. Mais là, ça fait un moment que je marche dans ses pas et maintenant que j'ai joué ce rôle, je vois les choses de son point de vue. Alors je ne l'excuse de rien. Je ne l'accable pas non plus, mais je dirais qu'elle a été abusivement punie, ça c'est sûr.
Est-ce que l'on sait, Stéphane, si Margot Robbie a pu rencontrer la vraie Tonya Harding?
Alors oui, évidemment, mais avant de le faire, écoutez, la comédienne a voulu prendre son temps.
Je l'ai rencontrée une semaine ou deux avant le tournage, mais j'ai volontairement retardé ce moment tant que je n'étais pas allée au bout de mes recherches sur le personnage. Vous savez, il y a des tas d'images d'archives la concernant. Mon rôle dans Le Loup de Wall Street était aussi celui d'une femme existante, mais on savait peu de choses d'elle et il n'y avait quasiment aucun document. Donc il fallait vraiment que je la rencontre pour l'étudier. Dans le cas de Tonya, j'ai pu commencer ce processus de loin, 6 mois avant le tournage, ce qui m'a aussi permis de travailler son accent avec un coach et l'aspect physique avec un autre pour lui ressembler autant que possible. J'ai également visionné tout ce qui existait sur elle avant enfin de la rencontrer. Mais ça n'a rien changé à ma manière de l'incarner. Et je ne l'ai plus revue avant la première du film.
Alors, depuis cette première, Moi, Tonya est devenu un petit phénomène au box-office américain. Le film, qui est vraiment un film indépendant, approche les 30 millions de dollars de recettes. 3 nominations pour les Oscars, dont celle de Margot Robbie, qui incarne de manière bluffante une sportive de très haut niveau, championne d'Amérique, vice-championne du monde, 4e des Jeux de 92. Elle est bien entendu doublée dans les scènes les plus ardues. Son visage a même été digitalisé sur celui d'une vraie patineuse. Mais Margot Robbie s'est tout de même appliquée à apprendre ce sport très complexe, très technique, une vraie découverte qui est devenue une passion.
Je n'ai pas pu en faire étant gamine et ça ne m'a pas aidée car j'ai grandi en Australie qui est un pays très chaud où on trouve peu de glace. Quand je suis arrivée en Amérique il y a 7 ans, j'ai intégré une équipe de hockey sur glace et j'y ai joué pendant une demi-saison. C'est tout ce que j'ai fait en termes de patinage avant ce film. Depuis, j'ai tourné 4 ou 5 films et quand vous êtes sous contrat, il y a tout un tas de choses que vous ne pouvez pas faire. Des trucs qui potentiellement peuvent vous blesser. Tout est listé et le patinage en fait partie. Donc l'an dernier, je n'ai pas patiné, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'engagement. Donc je vais pouvoir ressortir mes lames et me retrouver à nouveau sur la glace. Ça fait trop longtemps.
Alors elle devra sans doute encore attendre un petit peu, Stéphane, car Margot Robbie est actuellement dans une toute autre compétition.
Oui, on en parlait, la course à l'Oscar de la meilleure actrice, face notamment à Meryl Streep pour Pentagon Papers ou Frances McDormand, la grande favorite pour Three Billboards. Margot Robbie sera l'outsider dont la cote ne cesse de monter d'ici au dimanche 4 mars. Elle se plie évidemment à toutes les mondanités que cela impose. Vous savez, c'est la fameuse campagne oui. des Oscars.
Yeah, it's a really busy time of year.
Oui, c'est un moment de l'année assez chargé. Heureusement, ça se passe avec des gens que j'aime et pour un film que j'aime. Donc chaque fois que j'en parle, comme durant cette interview, j'en suis très heureuse que l'on s'y intéresse. Le Loup de Wall Street a été mon premier film en Amérique. Et comme c'est Scorsese qui l'a fait, il a été très remarqué. Donc c'est définitivement le vrai tournant de ma carrière. Moi, Tonya en est un autre car c'est un premier rôle et c'est une responsabilité très différente. C'est vous qui portez le film. Moi, je n'ai jamais revendiqué cela avant. Mais certains rôles s'imposent à vous et celui de Tonya est un de ceux-là. Il m'a décidé à endosser cette charge-là.
Et elle en connaîtra sans doute beaucoup d'autres. La sensation Margot Robbie, vous la verrez donc découvrir mercredi au cinéma dans le formidable Moi Tonya, réalisé par Craig Gillespie. Et notez que nos camarades Sidonie Benec et Thomas Hugues, cet après-midi dans La curiosité est un vilain défaut, reviendront sur cette affaire Tonya Harding, Nancy Kerrigan, avec notamment au téléphone Philippe Candeloro.
Parfait. Et alors, Isabelle Langer pour doubler. Alors là, c'était un choix parfait. C'est luxueux.
Mais bien sûr. Très grosse production.
Tout le temps
très, très, très grosse production. Dans un instant, les Express avec Olivia Loret.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Et à 9h09, nos Express du jour préparés par Olivia Loret. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Et tout d'abord, nous vous en parlons évidemment depuis ce matin. Le monde du jazz rend hommage à Didier Lockwood.
Le célèbre violoniste français est mort brutalement hier. Il avait 62 ans. Ce week-end encore, il participait à un concert dans une salle parisienne. La France perd un musicien d'exception, un homme aux qualités rares, souligne le violoniste Renaud Capuçon sur Twitter. De ses débuts avec le groupe Magma à ses collaborations avec Barbara ou encore Claude Nougaro, Didier Lockwood a donné près de 4500 concerts. Alors en juillet 2016, au festival de Jouan-les-Pins, le jazzman répondait à notre spécialiste Jean-Yves Chaperon. Après tous ces projets plus originaux les uns que les autres, est-ce que la lumière brille toujours ?
Elle brille d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui ont envie de continuer à créer et de faire des choses innovantes et de prendre des risques, et ceux qui sont prêts à se perdre, il faut qu'ils y aillent maintenant. Parce que de toute façon, on ne risque rien. On ne vendra pas plus de disques, ni moins, en essayant de répondre aux critères du marché, puisque de toute façon, il n'est plus fait du tout pour la création. Il est fait simplement pour la rentabilité et vendre des disques. Mais en ce qui concerne la musique instrumentale aujourd'hui, il faut oublier, c'est autre chose. Au contraire, il faut qu'on aille chercher d'autres choses. Prenons cet espace comme un espace de liberté.
Django Reinhardt est interprété par Didier Lockwood, c'est absolument merveilleux. Le retour d'une voix à présent, Olivia.
Cinq ans après ce tube, Under, Alex Hepburn prépare son retour. Elle publiera à l'automne prochain son deuxième album, très attendu. Stephen Bellery a eu la chance de rencontrer la chanteuse écossaise de 31 ans. Elle présente le tout premier extrait intitulé I Believe et elle explique pourquoi elle a mis tant de temps avant de revenir.
J'ai eu des problèmes personnels assez graves. Ça m'a un peu coupé l'envie d'écrire. Ce qui est bizarre parce que généralement, c'est ce qui me rend très créatif. Donc j'ai pris un moment pour m'en remettre et pour me retrouver et me reconstruire, même physiquement, spirituellement, everything. Et ça m'a pris du temps. t'es qui? Pourquoi t'as commencé la musique? Et moi, je dis, soul. James Brown, Nina Simone, Etta James, Aretha Franklin, tous ces gens avec qui m'ont donné envie d'être une chanteuse. Et I Believe, c'est justement un des premiers titres que j'ai écrit en reprenant la musique. J'étais à un moment dans ma vie où je me sentais un peu comme dans un prison parce que j'avais peur de revenir, je savais pas trop quoi faire. Je me suis réveillée un matin, j'ai dit non, j'y crois, un jour je serai libre de ça. Il y a mieux qui arrive. Et la prison ne sera jamais dans ma tête, même si elle est autour de moi. Je voulais avoir un mélange de contemporain et de rétro.
L'habitude avant de partir en tournée, Calogero dévoile ses concerts intimistes à Paris.
Courez Yves, c'est dans quelques jours, 26, 27 et 28 février. Trois représentations, tout petit comité à l'Européen, une salle parisienne avant d'aller défendre dans toute la France son album Liberté Chérie. Ce disque emmené par le tube Je joue de la musique. Voilà, ça va rester dans la tête toute la journée. Ouais. Il y avait aussi les singles Fondamental ou encore Voler de nuit. Et cet album s'est déjà écoulé à près de 300 000 exemplaires. Les places sont en vente à partir de 10h aujourd'hui.
Et puis on termine avec le palmarès des BAFTA 2018.
C'est la version britannique des Oscars. Yes. Ça avait lieu hier à Londres. Three Billboards, les panneaux de la vengeance, obtient 5 récompenses, dont celle du meilleur film. Gary Oldman est couronné meilleur acteur pour Les Heures Sombres, le film dramatique sur Winston Churchill. Et puis La Forme de l'eau. Dernier long métrage de Guillermo del Toro repart avec 2 récompenses, dont celle de la meilleure musique originale, musique du français Alexandre Desplat.
Qui sera aussi le favori pour les Oscars parce qu'il a eu le Golden Globe et le film sort mercredi en France. C'est une splendeur, je vous en reparle mercredi matin.
Oui, bah avec grand plaisir. Voilà, c'était les Express qui nous étaient proposés par Olivia Leray. Nous en venons à notre page télévisée en commençant par les audiences du week-end avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, Médiamétrie, moi-même, vous disons que vendredi, l'aventure Robinson est en tête sur TF1, mais 150 000 personnes d'écart seulement entre la une et la rediffusion d'Un petit meurtre sur la 2. Samedi, en revanche, nette victoire de The Voice face à Cassandre sur la 3, le polar, 6 millions contre 4 300 000. La déception étant pour samedi, c'est Parody, 4e. Quant à hier, c'est le film Le Labyrinthe qui est en tête sur TF1, 2 millions de plus que Tellement proche sur la 2. Moi, j'étais sur Zone Interdite, qui rassemble 2 400 000. Formidable dossier sur le sommeil.
On va parler de notre soirée télévisée. Alors, on place aux fictions avec un Hardson, c'est une nouvelle série sur Canal+.
Pourquoi cette série? À cause de ça. Le thème de ce tube de David Bowie, l'apocalypse qui, selon David Bowie, doit arriver dans 5 ans. C'est cette chanson qui a donné à l'auteur Neil Cross l'idée de Hudson. Alors je vous fais le résumé. Suite à un piratage informatique, un projet de destruction du monde pour dans 5 ans est découvert. S'affronte alors le gouvernement qui veut faire croire à un canular et un tandem de flics qui veut juste faire son boulot. Je n'ai pas tout compris d'ailleurs quel était exactement leur boulot, mais bon. C'est une série au-delà du sombre, jouée par Jim Sturgess, qui en fait parfois un tout petit peu trop, et le top Agnès Dane, qui en fait parfois un tout petit peu pas assez. C'est une réussite.
Là, vous me donnez envie de regarder, du coup.
Mais il faut supporter les giclées de sang. Alors, je vous recommande la scène initiale, où l'héroïne, très très belle, agressée, frappée, molestée, piétinée, et finalement éventrée par un jeune homme, lui plante une fourchette sous l'œil. Or, cet agresseur, 3 petits points, c'est son fils. Bon appétit à 21h sur Canal+.
Ah oui, donc oui. Alors, et la fin, c'est celle du feuilleton de TF1, les bracelets rouges.
Oui, fin de la saison 1, elle aura évidemment une suite, cette fiction formidable, plébiscitée par les jeunes, 47% des 15-24 ans regardent, par les femmes et globalement par tous les publics, avec 5 600 000 fidèles de moyenne et quelques 800 000 personnes qui suivent en replay, après diffusion. C'est sensé, sensible et ça raconte le quotidien d'enfants hospitalisés qui veulent vivre comme tous les ados et qui y parviennent. Entre deux opérations, il y a notamment la jeune Roxane, courtisée par deux garçons en chimio, qui, elle, ne s'avoue pas son anorexie, sauf que, enfin, un jour, elle décide de parler au médecin, enfin, à sa façon.
Vous avez pris l'ascenseur ?
Non, je le prends quand il est là, sinon je monte à pied, c'est plus rapide.
Vous savez combien ça dépense de calories de monter 4 étages à pied ?
Non.
13 calories, 3,25 par étage.
J'aurais cru que ce serait plus.
Pour éliminer un yaourt nature 0%, il faut monter 16 étages.
Tu montes souvent des étages en pensant aux calories que tu élimines?
100 grammes de courgettes, c'est juste 16 calories, mais pour les éliminer, il faut monter 5 étages. Mais pour éliminer 100 grammes de poulet, il faut monter 60 étages, et ça, c'est sans la peau. Quant aux chips, si on veut éliminer 100 grammes de chips, il faut monter 171 étages, soit 43 fois les 4
voilà.
étages.
Et à la fin, elle demande de l'aide. Voilà, pour TF1, cette série à l'hôpital est forcément une très bonne opération. Évidemment.
Vous, c'est très drôle.
C'est une vraie réussite.
Vous nous signalez aussi, pardonnez-moi, aussi à nos jeunes vacanciers le film Iron Man 3 sur
oui,
M6.
J'adore les Iron Man.
Mais vous avez un coup de cœur pour C8.
Oui, une émission signée Victor Robert sur la Corée du Nord. C'est très pop côté réalisation, c'est très complet, c'est très coloré, c'est forcément très effrayant. Bon, bref, c'est passionnant. L'enquête est signée Nathalie Touret et Julien Ri, des spécialistes de la Corée du Nord. Ça s'appelle Kim Jong-un va-t-il faire sauter la planète ? Je ne sais pas si je prononce bien, confirmation avec Victor
avec cette
Robert.
Chacun a sa façon. Il y a Kim Jong-un, Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est la version nord-coréenne.
Et le père, ça ressemble.
Kim Jong-il. Ouais, Kim Il-sung, le grand-père.
Ne remontons pas si loin.
Kim Jong-suk. Il y a du Kim. C'est un personnage très jeune, très fou, très particulier. Les Kim sont des dieux là-bas. Et en fait, c'est impossible de les approcher, de les toucher, que la population nord-coréenne ne les voit jamais. Ce sont des dieux qui sautent de montagne en montagne, qui sont capables de disparaître, qui sont capables en un geste de faire moissonner un champ de blé. Et donc, c'est très, très particulier comme pays.
Alors, ce doc est complémentaire de tout ce qui a été diffusé, notamment votre doc Yves sur la Corée du Sud, les Jeux Olympiques, et du doc d'envoyé spécial qui montrait la passion du dictateur pour le Coca-Cola, oui. Mickey et le tennisman Dennis Rodman. En fait, les images sont parfois horribles, les assassinats en public de membres de sa famille, parfois fascinantes, sa passion pour tout ce qui est coloré, et parfois horriblement fascinantes, folles, avec des exclus comme le film sur sa mère autrefois cachée, la quatrième maîtresse légitime du dictateur précédent. Mais lui, Victor Robert, qu'a-t-il appris par exemple sur les livrets scolaires? C'est étonnant.
J'ai appris beaucoup de choses. En plus, on a des choses fraîches. C'est-à-dire que les livrets scolaires, par exemple, je vous le disais, c'est un truc hallucinant. Ils ont été dessinés par Kim Jong-un en personne, enfin supervisé avec ses dessinateurs. Et vous les verrez, toute la génération, et ça c'est inquiétant, la génération nord-coréenne actuelle, toute la génération nord-coréenne actuelle est éduquée par des livrets qui sont remplis. Alors, je vous donne un exemple. Le cours d'histoire, c'est tout le programme nucléaire nord-coréen. Je vous le disais, le cours de mathématiques, on apprend la balistique, calculer la trajectoire d'un missile. Le cours d'anglais, c'est Objectif Lune. Tout tourne autour de la bombe pour des milliers d'enfants qui sont éduqués dans cette philosophie.
Alors, en conclusion, pourquoi regarder un soir de forte concurrence? C'est formidable.
Oui. Ça passe vite, c'est rythmé. Il y a des infos croustillantes, personnages fous, dignes des plus grands méchants de James Bond, enfin même au-delà de nos espérances. Pays complètement dingue, regardez, il faut savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Il y a toujours des petits retentissements. Et puis la Corée du Nord a pris une place énorme sur la scène diplomatique. Je dis aux futurs bacheliers, ça peut tomber sur un sujet du bac. Si vous voulez réviser en rigolant, vous regardez C8 lundi à 21h. 05, 10, 15.
Oui, voilà. Un peu de ce qui précède. C'est pas survendu du tout, je vous jure. J'ai été absolument fasciné.
Vous savez, moi, je vous fais confiance. Hein. On continue de parler télévision avec la saison 2 de la création française Marseille, qui sera disponible sur la plateforme Netflix vendredi prochain. Les comédiens Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Géraldine Pellas et Natacha Régnier, qui intègrent la série, ainsi que le réalisateur Florent Siri, ont présenté hier à Marseille les 8 nouveaux épisodes. Étienne Baudu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous étiez convié à cette présentation et vous avez pu visionner, je crois, les premiers épisodes. De cette nouvelle saison. Alors, la première saison avait été diversement appréciée, on va dire. Cette deuxième saison est-elle mieux réussie?
Allez, écoutez, je vais me mouiller et je vais vous répondre oui. Alors, c'est vrai, on reste dans un scénario parfois abracadabrantesque. Hein, on y mêle cette saison. Écoutez du peu, la politique et une alliance entre le nouveau maire de Marseille et le Front National. Il faut y ajouter un meurtre énigmatique, les trafics de drogue, les sans-papiers, le terrorisme aussi, une histoire d'amour compliquée et les rapports père-fils sur fond, il faut le dire, de très belles images de la cité phocéenne. Alors, la politique est donc omniprésente avec un Gérard Depardieu très convaincant, maire de Marseille, hein, Depardieu en grande forme, et je le trouve d'ailleurs bien meilleur que dans la première saison.
Un fils, t'as été plus que ça pour moi.
Plus que ça? Plus qu'un fils? Mais t'as même pas été foutu de me reconnaître, Robert.
T'as signé avec le diable.
Et pourtant, à entendre Gérard Depardieu, il n'aime pas la politique, mais alors, pas du tout, il le dit avec humour et dérision.
Non, je déteste la politique et les hommes politiques aussi, excepté quelques amis dictateurs, comme diraient les journalistes. Et encore, je ne les ai pas vus beaucoup. Mais dans Marseille, il y a ce qu'est la politique, ce qu'on nous fait voir de la politique, et les dessous, qui sont pas reluisants et très malodorants, mais ça ne m'inspire pas. La politique ne m'a jamais inspiré, moi. Pour laisser ça aux professionnels de la profession, moi, ça me fait plutôt chier que ça me fait rire.
Bon, alors, Gérard Depardieu égal à lui-même. Il a une voix, parler de plus en plus belle. Non seulement il chante de mieux en mieux, mais il parle de mieux en mieux. C'est étrange. Alors, Étienne, certains avaient critiqué la première saison en regrettant que les clichés sur Marseille se ramassaient à l'appel. C'est le cas encore ou pas?
Alors écoutez, à la mairie, on va sans doute crier encore au Marseille bashing. Alors c'est vrai, c'est sombre. Et ce n'est pas plus belle la vie, on est d'accord. Mais bon, c'est une fiction et un parti pris des scénaristes. Un parti pris que défend Géraldine Pellas, elle-même née à Marseille, hein, qui joue la, la femme du maire Gérard Depardieu et qui joue elle aussi, d'ailleurs, très juste dans la série.
Je trouve que ce serait vraiment mentir, faire semblant d'annihiler totalement des aspects de la ville que la majeure partie des gens connaissent et reconnaissent. Donc on est dans une fiction, les scénaristes ont décidé de se focaliser sur tel et tel sujet et je le respecte.
Étienne, une belle brochette d'actrices et d'acteurs donc. Benoît Magimel aussi, qui ne quitte plus Gérard Depardieu, puisqu'ils ont tourné ensemble dans les deux saisons de Marseille, et aussi dans Carbone, hein, le film d'Olivier Marchal, qui est sorti cet automne. Et pourtant, avant la série Marseille, ils n'avaient jamais joué ensemble.
Non, jamais. Et pourtant, les deux acteurs se trouvent vraiment à Marseille, à merveille dans la série. Benoît Magimel, qui, soit dit en passant, a eu la bonne idée d'abandonner quand même son accent marseillais, qui sonnait vraiment faux dans la première saison. Benoît Magimel, qui revient donc sur cette rencontre avec Gérard Depardieu, finalement toute récente.
Depuis que je suis gamin, ma mère me parlait de Gérard comme un exemple sur le fait qu'on peut venir de nulle part et faire ce métier, que c'est possible en fait. Et je me disais, un jour je travaillerai avec lui, c'est sûr. Et on m'a proposé mon perso-héros et j'ai dit, c'est pas le bon. Gérard m'a appelé il y a moins de 10 ans pour me proposer un autre film avec lui. Et là, j'écoute le message de Gérard Depardieu sur mon répondeur, je le fais écouter à mes potes. Je dis, c'est extraordinaire. Il m'appelle, moi. Et je lui dis, je pense que c'est pas le bon encore. Et j'étais persuadé qu'il fallait faire quelque chose sur la filiation. Et mon ami Florence Siri est venu me proposer la série Marseille avec Gérard, comme rôle d'un père. Voilà.
Benoît Magimel qui ne taille pas d'éloges sur Gérard Depardieu, qui d'ailleurs lui rend bien.
C'est de là maintenant, il s'adore. Hein. Alors maintenant, Étienne, une saison 3 est-elle envisagée?
Alors là, attention, hein, c'est l'algorithme de Netflix qui va en décider, c'est-à-dire si le nombre de clics des abonnés sur la série est suffisant. Netflix qui ne donne aucun chiffre, hein, on ne sait pas combien d'abonnés ont regardé la première saison. Le potentiel est pourtant énorme, hein, on parle de 110 millions d'abonnés dans le monde. Mais il semblerait quand même que les producteurs y pensent très sérieusement. C'est ce qu'explique Florent Siri, le réalisateur.
Moi, ils m'ont demandé de faire une scène de fin dans la saison 2 qui ouvre sur une saison 3. Donc je l'ai fait. Elle n'était pas prévue. Et au milieu du tournage, ils aimaient tellement ce qu'on était en train de faire, les acteurs, l'histoire, ils m'ont demandé d'inventer une scène pour ouvrir peut-être une éventuelle saison 3. Donc on espère, on croise les doigts.
Voilà, en attendant, Marseille saison 2, c'est à partir donc de ce vendredi sur la plateforme Netflix pour les amateurs du genre.
Alors d'abord un grand merci à Étienne Baudu.
TF1 diffuse Marseille 1 et diffusera ensuite Marseille 2 évidemment.
Et ben voilà qui est dit.
TF1 film série.
Dans quelques instants, nous partons au château de Vincennes. Je peux vous dire que ça va être très joli parce que Monique Younes nous prend par la main et on va même aller du côté de la Sainte Chapelle du château. À tout de suite.
Vous êtes sur RTL. RTL, première radio de France.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous nous faites découvrir ce matin la nouvelle exposition de la photographe Bettina Reims, à qui l'on doit, rappelons-le, le portrait officiel, entre autres, du président Jacques Chirac en 1995.
Oui, rien à voir avec cette exposition qui a pour titre Détenu et qui se tient à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Il s'agit de portraits de femmes emprisonnées que Bettina Reims a photographiées en 2014 quand Robert Badinter l'a envoyée en prison.
Oui, je dis ça en riant, je dis Robert Badinter m'a envoyé en prison, les gens sont un peu interloqués, mais c'est la vérité. Il me disait toujours, on ne parle jamais des femmes en prison, on ne les voit pas, la société ne veut pas les voir, les a rejetées, les a mis de côté. Ramenez-les, Bettina, allez les voir, regardez-les et ramenez-les au cœur de notre cité.
Et elle est allée, Bettina Reims, elle qui avait toujours enfermé de sublimes femmes dans des hôtels de luxe. dans des studios prestigieux, bref, dans les lieux très bien choisis, elle s'est dit qu'il était temps de passer à autre chose. Et pourquoi pas à l'opposé complet, du côté de la misère, du crime, de la solitude et de l'enfermement. Elle s'est donc rendue dans les prisons de Rennes, Poitiers, Lyon, Roanne. Elle a rencontré les femmes détenues, elle a montré son travail, expliqué son projet. Elle leur a dit qu'elle voulait réaliser le portrait de celles qui le souhaitaient. Et la plupart ont accepté. Bettina Reims disposait de 2 cellules pour travailler.
Donc on les préparait pendant une demi-heure. On leur donnait un petit choix de vêtements si elles avaient envie de se changer ou qu'elles trouvaient que ce qu'elles avaient n'était pas assez bien. Et puis elles passaient dans la pièce à côté, pompeusement baptisée le studio qui devait faire, je crois, 6-7 mètres carrés. Elles étaient appuyées contre le mur, assises sur un tabouret qui n'était pas particulièrement confortable. Et puis moi, j'étais très près d'elles. J'étais contre un mur, elles étaient contre un autre. Et cette proximité a tout de suite induit une grande complicité. Bon, au début, elles avaient très peur. Hein. C'est difficile quand on n'a jamais fait ça. Est-ce qu'il y a un peu un piège derrière ça? Qu'est-ce que je dois faire de mes bras, de mes mains? Je dois regarder où? Et puis petit à petit, on sent que la respiration reprend son rythme normal. Quelque chose s'installe. Et puis elles parlent. Elles se sont beaucoup racontées, elles se sont beaucoup dévoilées. Et j'ai attendu chaque fois longtemps qu'elles aient fini de parler. Et là, je pouvais enfin faire ma photo.
Alors combien de détenus a-t-elle photographié ?
50, et leurs 50 portées sont magnifiquement exposées à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Chaque portrait est niché dans un grand cadre en métal autoporté, comme si chaque détenu occupait son oratoire. Et on a l'impression, grâce à cette scénographie, d'assister à une conversation entre ces différentes femmes. Il y a des jeunes, des plus âgés, des visages marqués, d'autres encore lisses, des attitudes gauches, certaines sourient légèrement, la plupart demeurent graves, terribles, pathétiques, et toutes essayent de rester dignes au-delà de leur disgrâce.
Certaines, de manière un peu maladroite, ont pris des positions qu'elles ont probablement vues dans des journaux de mode. Et c'était joli parce que ça marchait pas vraiment, mais ça disait tellement de choses d'elles. Et puis d'autres avaient peur et la moindre indication que je leur aurais donnée les aurait pétrifiées encore plus. Donc je les ai laissées vivre sur leur tabouret en me disant qu'à un moment, il allait se passer quelque chose. C'était des moments magnifiques. On a souvent fini en larmes, et elles, et moi, et les assistants, et tout le monde pleurait. L'idée était de les aider à restaurer quelque chose de cette image de soi qu'elles disaient toutes avoir perdue en entrant en prison. On ne se regarde pas parce qu'il n'y a pas de miroir, donc on ne se voit plus. Quand on ne se voit plus, les autres ne vous voient plus, et on se dissout. Et donc, l'idée, c'était qu'un jour elles allaient sortir et que ça pourrait les aider, cette image que je me proposais de faire avec elles et de leur offrir, parce que chacune a eu un tirage, de les aider à restaurer quelque chose de cette confiance en elles.
Il y a quelque chose de sacré dans cette exposition à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Les photographies des détenus sont accompagnées de petits textes rédigés par Bettina Reims, des fragments de vie des détenus photographiés. On apprend en les lisant tant sur la vie en prison, violente, infantilisante, où les médicaments tiennent lieu d'hostie. On en apprend aussi ce qui est rare sur les causes de leur détention. Il y a celle qui a tué un homme et l'a découpé en morceaux pour voir ce que ça faisait, parce qu'il faut avoir tout essayé dans la vie. Celle qui a volé pour nourrir ses enfants, celle qui a transporté de la cocaïne sans le savoir. Si vous voulez rencontrer ces détenues de Bettina Reims, elle vous attend à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Et si vous avez peur de vous déplacer dans ce lieu carcéral, vous pouvez les retrouver dans le livre édité par Gallimard, sobrement intitulé « Détenues ». C'est sans doute un tournant dans l'œuvre de Bettina Reims et pas des mois passionnants. Rien de tel que le réel pour mettre le talent à l'épreuve.
Merci beaucoup Monique Younes. On se retrouve dans quelques instants pour accueillir Julien Courbet qui lui aussi vient de sortir de prison.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Excusez-nous, on parle ski avec Isabelle Morini-Bosse qui est ridicule. Enfin non, c'est pas ridicule, mais bref, on n'a pas de temps à perdre. On retrouve Julien et je suis ravi de voir que vous avez été libéré grâce à Maître Fellono et ça c'est très important.
Oui, merci beaucoup. Mais en fait, ceci étant dit, on peut continuer la conversation sur le ski.
Elle aime bien les skis rossignol, Isabelle, mais comme oui. Moi, depuis qu'on est petit. Ah, voilà.
C'est vrai, mais elle fait du ski, Isabelle.
Mais j'en ai fait, oh là là, pendant trop longtemps.
Oh là là, elle godille.
Elle godille.
Oh là là.
Je godille très bien, mais j'ai peur de tout.
Et au niveau du planter du bâton, elle est comment?
C'est vous qui êtes entouré d'as du barreau.
Est-ce qu'on ne fera pas mieux?
Non,
merci
non, on
beaucoup.
Vous laisse
la semaine
vous,
démarre
vous laisse
très
vous
bien.
Dépatouiller. Bonne émission.
Vous écoutez RTL.